Il m'appartient de vous souhaiter à tous la bienvenue de la part de l'École de Paris et de la part du Club des Annales des Mines, dont je suis le président, Jacques Père, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je rappellerai simplement que le Club des Annales des Mines est un groupe de personnes et d'entreprises qui organisent des débats, quelques-uns par an, sur des sujets qui ont quelques caractéristiques. La première, c'est qu'ils sont liés à des évolutions des techniques. La deuxième, c'est qu'ils soulèvent des problèmes de société, en soulevant à la fois des craintes et des enthousiasmes et des débats tout à fait animés. Enfin, c'est l'autre caractéristique, ces débats sont organisés généralement avec les Annales des Mines et les publications des Annales des Mines pour compléter des publications dans des Annales des Mines. Alors le sujet d'aujourd'hui correspond bien, il y a des évolutions techniques, il y a une passion pour la voiture électrique, il n'y a qu'à voir n'importe quel ministre saute au volant dès qu'on lui parle de véhicules électriques. Et enfin, il y a eu un numéro récent des Annales des Mines sur la voiture de l'avenir. Donc tout est réuni pour que nous ayons un débat que maintenant Michel Berry va animer. Vas-y Michel, à toi.
Merci. Le véhicule électrique fait rêver périodiquement, comme vous le savez. On aura l'occasion d'y revenir. Au début du XXe siècle, déjà, on rêvait de véhicules électriques. Et périodiquement, le soufflet retombe. Et la question est de savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le soufflet ne va pas retomber et que le véhicule électrique va vraiment démarrer. Donc c'est une soirée des invités de l'École de Paris, auxquels certains sont habitués, qui se déroule généralement ici à l'École supérieure de commerce Europe, l'ESCP Europe, qui nous invite gracieusement. Mais c'est une joint venture avec le Club des Annales des Mines qui organise un rendez-vous des Annales des Mines. Alors le Club des Annales des Mines fait ses réunions le jeudi à l'École des Mines. Aucun jeudi n'était libre pour Patrick Pellata. D'habitude, les soirées sont payantes, les rendez-vous sont gratuits. La seule issue possible était de faire une soirée gratuite. Alors, les mauvais esprits disent que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. Je pense que ça va au-delà, c'est que le véhicule électrique suscite véritablement l'engouement. Donc pour traiter ce sujet, le véhicule électrique va-t-il vraiment démarrer? Nous avons des orateurs, je pense, bien choisis. Philippe Hirtzmann, qui a participé au rapport patronné par Jean Sirota sur le véhicule grand public du futur. Interviendra ensuite Christophe Midler. Vous connaissez Christophe Midler, auteur de l'auto qui n'existait pas, donc il aime bien les défis impossibles. Et maintenant, il s'intéresse aux véhicules électriques et il posera les problèmes de méthode que pose le véhicule électrique. Ensuite, Michel Matteux, qui est à la stratégie d'EDF et qui est par ailleurs responsable du comité de rédaction de Réalité Industrielle qui a édité ce numéro que vous pourrez acheter à la sortie et donc qui nous parlera du véhicule électrique vu du point de vue d'EDF. Et Patrick Pellata, directeur général délégué de Renault, donc Renault qui a fait le choix le plus radical en matière de véhicules électriques, donc qui exposera son point de vue et qui interviendra en dernier. Et puis ensuite, comme d'habitude, nous aurons un débat avec la salle. Je vais donc, sans plus attendre, passer la parole à Philippe Hirtzmann.
Oui, merci. Mon propos est de vous présenter de façon très succincte la problématique qui entoure le véhicule électrique en utilisant comme source d'information essentielle un rapport que j'ai commis donc, dans le cadre du Centre d'analyse stratégique, ex-commissariat général du plan, et du Conseil général des mines, devenu entre-temps Conseil général de l'industrie, d'énergie et des technologies. Donc ce rapport s'est fait sous l'égide de Jean Sirota, personnalité bien connue du monde énergétique, et qui a été fait il y a à peu près un an et demi. Naturellement, ces sources d'informations ont été actualisées parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en un an, deux ans, mais les fondements de mon intervention ne sont pas modifiés de façon significative. Alors je vais directement au résultat. Grandeur et servitude du véhicule électrique, deux avantages incontournable. Premièrement, zéro émission au lieu d'utilisation. Et deuxièmement, une diminution apparente de la dépendance au pétrole. Je m'expliquerai tout à l'heure sur la signification du mot apparent. Alors il y a un mais. Le mais, c'est un bilan d'émissions en oxyde de carbone contrasté. Il dépend essentiellement de l'origine de l'électricité qui est censée alimenter les véhicules. Le véhicule électrique comporte de nombreux handicaps. Encore de nombreuses incertitudes, tant au plan technique qu'au plan économique. Et enfin, force est de constater que le véhicule thermique a encore de beaux jours devant lui, surtout qu'il peut bénéficier encore de progrès considérables qui sont dans les cartons et qui ne demandent qu'à être mis en œuvre. Alors, les éléments de vision, je les résume en trois questions. Un, y aura-t-il des véhicules électriques d'ici 2020 ? La réponse, oui, sans nul doute. Une petite part du parc automobile. Les experts, les constructeurs, M. Pellata s'exprimera sur le sujet, parlent de 5, 10, 20% des ventes. Je ne parle pas du parc, mais des ventes. Et nous, notre vision, c'est que cette situation se fera plutôt sous la pression d'éléments d'ordre sanitaire, c'est-à-dire essentiellement l'apparition de zones urbaines à circulation réglementée, plutôt que sous la pression immédiate des politiques d'approvisionnement en hydrocarbures ou les politiques de réduction des émissions de CO2. Sujet qui peut être débattu. Deuxième question, le véhicule électrique représente-t-il la réponse universelle aux problèmes énergétiques et environnementaux ? À l'évidence, il nous paraît que non, et c'est là où il faut arrêter de fantasmer et de présenter le véhicule électrique comme la panacée universelle. Trois, le véhicule électrique a-t-il un avenir industriel et commercial assuré ? Réponse, oui, sans doute, mais ça va être difficile, long et coûteux, pour ne pas paraphraser une parole célèbre de Coluche. Et circonstances qui justifient le fait que nous pensons que cette apparition du véhicule électrique dans le panorama quotidien ne sera qu'au prix d'une volonté politique très forte. Avant de rentrer dans le cœur de la problématique, je rappelle en une phrase des éléments de contexte, donc contexte mondial, contexte local. Contexte mondial, donc nous avons un contexte inédit depuis une décennie, puisque à une situation déjà connue par le passé, c'est-à-dire dépendance géopolitique et accroissement de la demande mondiale, s'est rajoutée depuis un certain nombre d'années la prise de conscience de la réalité du réchauffement climatique qui provoque l'émergence de politiques de réduction des gaz à effet de serre. Au plan local, la problématique est complètement différente. C'est surtout deux considérations qui dominent. Un, la lutte contre le bruit. Deux, la réduction de nouvelles, entre guillemets, formes d'émissions, c'est-à-dire que plus on réduit par la catalyse, par des dispositifs sophistiqués, les pollutions, les émissions des véhicules, plus vous en faites apparaître d'autres qui sont cachés, poussière fine, micropolluants, oxyde d'azote, etc. Et il faut reconnaître que sur ces deux plans, c'est-à-dire bruit et pollution, l'avantage comparatif du véhicule électrique est décisif, face à un véhicule thermique qui a une image assez dégradée de ce point de vue. Dernier élément de contexte pour situer le problème, à la louche, on ne va pas chicaner sur les chiffres, parmi les secteurs économiques, le transport représente un tiers du point de vue des émissions de CO2, donc transport, et parmi le transport, le véhicule individuel compte pour deux tiers, ce qui justifie a posteriori l'intérêt qu'on peut porter sur le véhicule individuel. Donc voilà les éléments de contexte. On rentre dans le cœur du sujet, donc qui est articulé sur deux rubriques essentielles. Un, les handicaps. Deux, les incertitudes. Les mots ne sont pas neutres. Les handicaps, ça veut dire que ce sont des obstacles structurels, organiques, qu'il va être difficile de lever. Par contre, les incertitudes font référence à la constante de temps qui interpelle le progrès technologique, l'accompagnement économique, et donc avec le temps, les années, les décennies, on peut avoir espoir de surmonter ces incertitudes. Alors les handicaps, il y en a deux. Premièrement, la densité énergétique des batteries est bien inférieure à celle des hydrocarbures. Dit en clair, c'est pas demain qu'on va trouver mieux que de remplir un réservoir à température ambiante et à pression atmosphérique avec du liquide. J'ai signalé en gros une tendance de progrès de 5% par an, mais vous voyez qu'à ce rythme-là, ce n'est pas demain que le point rouge qui est en haut à droite va rejoindre la patate en bas à gauche. Une autre forme d'expression, c'est le même graphique, mais exprimé de manière différente, et vous voyez apparaître un facteur 50 entre les énergies massiques des batteries qui sont en bas et puis le réservoir de 50 litres d'essence ou de diesel. Deuxième handicap, le temps de réapprovisionnement. Il faut voir que là, c'est un élément majeur, technique, économique, sociétal. Je veux dire que tout le monde est habitué à remplir sa voiture en moins de 5 minutes, paiement compris, aujourd'hui, et que cette situation ne va pas se retrouver si facilement que ça. Elle n'est pas impossible, mais elle ne va pas se retrouver si facilement que ça avec le véhicule électrique. Pour fixer les idées, l'exemple que je prends couramment, c'est d'indiquer qu'une station-service de grande capacité, style aire de service d'autoroute ou grande surface, avec 10 ou 20 pompes, est capable de délivrer une puissance instantanée qui est de l'ordre de celle d'une centrale électrique thermique, de l'ordre de 6, 60, 100 mégawatts. Alors qu'avec votre prise chez vous, prise classique, c'est maxi, enfin, ça dépend si vous avez 15 ampères ou 30 ampères, mais c'est de l'ordre de 3 ou de 6 kilowatts. Vous voyez apparaître un facteur 500. Alors on peut réduire ce facteur. Il y a deux moyens. Le premier, c'est de booster l'alimentation électrique, mais à ce moment-là, il faut revoir tout le circuit d'alimentation et la connectique. On peut espérer diminuer ce facteur jusqu'à 40. Et puis la deuxième solution, c'est de ne pas recharger sur site dans la voiture, mais de recharger hors site. Donc là, c'est la solution de l'échange standard, du transfert, du quick drop, sur lequel M. Pellata, je pense, s'exprimera de façon plus détaillée que je n'ai à le faire ici. Mais il faut voir que ça veut dire une infrastructure très contraignante et puis aussi une contrainte terrible sur le design du véhicule parce que le système d'échange standard de batterie par des robots qui viennent par un ascenseur échanger la batterie impose des contraintes de design assez importantes sur le véhicule. Alors ensuite, les incertitudes. Deuxième poste, les incertitudes. Alors là, c'est là où on doit toucher du doigt le progrès technologique. Le seul problème, c'est de savoir si la constante de temps, c'est la décennie ou plusieurs décennies. Alors, je ne détaille pas la liste impressionnante d'incertitudes au plan technico-économique. Je rappelle que les titres, fiabilité, il y a un problème de chauffage, par exemple. Je ne sais pas si mes collègues vont peut-être détailler là-dessus. La longévité, la durée de vie, le nombre de cycles pour une batterie typiquement sur 10 ans, le temps de rechargement, charge normale 6-8 heures, charge rapide 20 minutes, mais à quel prix d'investissement pour l'alimentation, capacité de stockage avec un point d'ordre social qui est que c'est le facteur anxiogène, c'est-à-dire qu'est-ce qui risque de rendre attractif un véhicule électrique face à un client qui a la peur bleue de rester en panne sèche. Le poids, l'encombrement, vous avez quelques ordres de grandeur, la tenue des performances dans le temps, la sécurité de la maintenance, on ne va pas bricoler une voiture électrique version 21e siècle comme on bricolait le moteur d'une 4L. Il faut voir que là-dedans, il y a du 400 volts. Hein, ce n'est plus les voitures électriques de grand-papa. Et donc, il faut faire attention aux problèmes de réparation, de maintenance et de bricolage. Le coût est effectivement l'élément essentiel, en gros 7-10 000 euros. Et un sujet qu'on évoque rarement, qui est très controversé, dont je ne prendrai pas parti, qui est-ce qu'on ne remplace pas une dépendance pétrole par une nouvelle dépendance lithium, puisque tout le monde s'accorde à dire que quand même la batterie de l'avenir va être à base de lithium, lithium-ion, lithium-phosphate, etc. Aujourd'hui, la production de lithium, elle est en gros 23 000, 25 000 tonnes par an, et elle vient essentiellement de Chine, Chili, Australie, Argentine, 25 000 tonnes. Les réserves prouvées, exploitables, elles sont de l'ordre de 14 millions de tonnes, mais elles ont le mauvais goût d'être concentrées en Chine, d'une part, et d'autre part en Amérique du Sud, Chili, Bolivie et Brésil. Donc, certains experts disent pas de souci, en plus le lithium est recyclable, d'autres prévoient quand même une raréfaction du lithium, si on inonde la planète de centaines de milliers, voire de millions de voitures, et bien sûr par un renchérissement considérable du coût d'accès à ce métal. La deuxième incertitude majeure est liée à l'infrastructure. Qui va payer l'infrastructure? Une station de transfert, par exemple, de transfert de batterie coûte entre 300 et 500 000 euros. Et puis, il y a un problème de normalisation évident. On ne va pas s'amuser à stocker des batteries de modèles différents dans des stations-service au bord des autoroutes. Troisièmement, et c'est là le sujet peut-être majeur, le modèle économique est-il encore à trouver? Location, amortissement de l'infrastructure et un sujet qui conditionne de façon majeure l'avenir du véhicule électrique, qui est la fiscalité, qui sera attachée à l'électricité en tant que source d'énergie. Pour terminer mon intervention, l'ambiance générale, c'est oui, le véhicule électrique a des avantages, mais des avantages qui sont contrastés. Donc les avantages incontournables, là il n'y a pas photo, c'est encore une fois émissions locales, pas de bruit en ville. Dépendance directe vis-à-vis du pétrole, oui, il y a diminution, mais pas partout. Et c'est là où il faut faire attention de ne pas arnaquer les gens en leur faisant croire que le véhicule électrique n'est pas à l'origine d'émissions de CO2. Le bilan, en gros, les véhicules thermiques, c'est de l'ordre de 140 à la moyenne en France, je crois que c'est 160 pour les modèles, grammes de CO2 par kilomètre. Le véhicule électrique, quand il est rechargé en France, compte tenu de l'hydroélectricité et du nucléaire, arrive à des performances tout à fait intéressantes, 15 et 20. Ceci dit, ça c'est en charge nocturne. Si vous chargez rapidement la journée, vous retombez sur des générations électriques qui font appel à du thermique et pas forcément à du nucléaire. Et puis alors, je ne vous dis pas, le mix monde fondé à 80% sur les hydrocarbures et le charbon vous amène des véhicules électriques qui émettent plus de CO2 qu'aujourd'hui un bon diesel. Alors, il faut comparer ce qui est comparable. Pourquoi ? Parce que le véhicule électrique n'a pas la même valeur d'usage que le véhicule thermique. Et donc, il faut se poser la question de savoir quelle serait l'émission de CO2 d'un véhicule diesel bien conçu qui aurait les mêmes performances d'autonomie et de vitesse de pointe qu'un véhicule électrique. Je ne parle pas de l'accélération, parce que l'accélération, en général, est un point fort du véhicule électrique. Deuxièmement, les performances théoriques du véhicule, il faut voir que tous les essais normalisés, NDEC, UTAC, 10-15 au Japon, ne prennent pas en compte les utilités, les accessoires. Et qu'un problème majeur du véhicule électrique, c'est le chauffage et la climatisation, puisque les calories ne sont pas fournies gratuitement. Alors M. Pelletin dira qu'il n'y a pas d'avenir sans pompe à chaleur, mais aujourd'hui, c'est quand même un domaine qui est totalement incertain et qui peut vous pomper 50% de la capacité d'autonomie d'un véhicule électrique. Si vous marchez de nuit avec essuie-glace et le chauffage, vous pouvez réduire fortement la capacité. Et dernier point, donc les sites d'homologation ne sont pas très adaptés à mesurer ce qui est comparable. Alors, élément de vision, et je termine par là. Des avantages comparatifs technico-économiques encore incertains pendant longtemps pour le véhicule électrique. Ça ne le condamne pas, mais il faut relativiser et être équilibré. Le surcoût est quand même un phénomène majeur. Aujourd'hui, c'est 100%. En gros, pour une voiture thermique, vous avez une voiture électrique nue ou la batterie. Bon, alors l'objectif, c'est terminer à 30% avec un modèle qui consiste à acheter la voiture électrique nue et de louer le service d'alimentation électrique exactement de façon homologue à l'achat du carburant. Ça veut dire que, quoi en définitive, la mobilité aujourd'hui va encore rimer pendant longtemps avec pétrole, que la seule voie d'avenir du véhicule électrique, c'est de changer le paradigme et ne pas faire inutilement fantasmer, et effectivement de changer un modèle d'investissement personnel, propriété d'un véhicule, par un opérateur de mobilité, et que tout ça ne se fera pas sans soutien public majeur. Conclusion. Les pistes d'avenir. Donc il y a des amorces de solutions. Location de batterie, je l'ai dit. Focalisation sur les flottes captives, les flottes et les véhicules urbains ou suburbains. L'introduction de l'hybridation va-t-elle permettre d'avoir des compromis provisoires? Les progrès à attendre sur les systèmes de charge rapide et d'échange rapide, sur lesquels il y a beaucoup de travaux faits depuis 2 ans, mais qui posent toujours un sacré problème de normalisation. La question du voiture hybride, au sens normal du terme, quel va être son jeu là-dedans dans la mesure où il est bien adapté à la ville et il a déjà trouvé une place sur le marché. Et puis, pour terminer, il faut se rappeler que par derrière, il y a des grandes manœuvres industrielles, des manœuvres d'alliance, des politiques d'appropriation ou de préservation de brevets sur les 3 composantes majeures du véhicule électrique qui sont le stockage d'énergie, l'électronique de puissance et la motorisation électrique. Donc, en conclusion ultime, le véhicule électrique, il y en aura dans les 10, 20, 30 ans, mais il disposera probablement d'encore trop de handicaps et d'incertitudes pour pouvoir se substituer massivement aux véhicules thermiques, indépendamment du fait que, de toute manière, le taux de renouvellement du parc de véhicules est toujours très lent, puisque un véhicule, aujourd'hui, arrive à faire 10 ans ou 15 ans. Merci.
Voilà.